sur Radio Lac et en multidiffusion sur Carac.
Genève, ville de culture.
Qu'elles soient artistes, scientifiques, autrices, réformatrices ou conservatrices, leurs noms ont été effacés des livres et de l'histoire. À l'heure où l'on célèbre le patrimoine, qu'advient-il du matrimoine ? Le mot existait au Moyen-Âge, pourquoi est-il en 2024 absent du dictionnaire ? Le Musée international de la Réforme propose depuis sa réouverture, il y a un peu plus d'un an, une meilleure visibilisation des femmes dans son exposition permanente. Le Conservatoire botanique de Genève, quant à lui, fête son 200e anniversaire. L'occasion est parfaite pour une rétrospective et un travail de mémoire. On s'intéresse aujourd'hui à celles qui comptent et ont compté, malgré le fait que les grands hommes soient toujours plus cités que leurs consoeurs. Pour cette discussion, on reçoit Jean-Quentin Effliger, conservateur et directeur adjoint du MIR, et Yamama Nassiri, conservatrice au Conservatoire et Jardin botanique et professeure titulaire à l'Université de Genève. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Yamama Nassiri, merci beaucoup d'assurer cet entretien par téléphone, malgré le fait que vous soyez malade. On a de la chance que vous ayez la force de tout de même nous parler. On va commencer par aborder le processus de marginalisation des femmes dans les découvertes scientifiques. Pourriez-vous nous raconter en quelques phrases, par exemple, la découverte spoliée de la biologiste britannique Rosalind Franklin ?
Oui, alors c'est une histoire assez célèbre, à vrai dire, maintenant. Elle a en fait produit en tant que cristallographe, en tant que physicienne, un cliché qui est très célèbre, qui s'appelle le cliché 51, qui a été utilisé par Watson et Crick, qui ont en fait obtenu le prix Nobel pour la découverte de l'ADN. Donc ce cliché concernait la structure de l'ADN, et c'est ce cliché qui a permis à ces deux scientifiques, trois à vrai dire, il y a Wilkins également, de comprendre comment l'ADN est structuré dans l'espace. Et ils ont obtenu le prix Nobel, donc, en citant à peine le fait que leur recherche avait fait un gros bond en avant suite à l'obtention de ce cliché. Et ce cliché avait été transmis par des voies un peu obscures à ce groupe de chercheurs, sans que Rosalind Franklin le sache. Alors, elle n'a pas obtenu le prix Nobel parce qu'à l'époque où Watson et Crick et Wilkins ont obtenu le prix Nobel, elle était décédée et qu'un prix Nobel ne se donne pas, ou en tout cas à l'époque ne se donnait pas à un chercheur décédé. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément reconnu en fait l'importance de la découverte de Rosalind Franklin pour leur propre recherche. Et ça a été donc, elle a donc été invisibilisée.
Un autre nom également cité lorsqu'il est question de cette invisibilisation est celui de l'astrophysicienne Jocelyn Bell Burnell. En 1974, elle est évincée par son professeur de thèse. En revanche, des années plus tard, elle est reconnue par la communauté scientifique. En 2018, elle reçoit le prix spécial de Percé en physique fondamentale. Est-ce qu'on peut dire que les temps changent ?
Alors, je pense que les temps changent, oui, Dieu merci. Alors, Jocelyn Bell est plus jeune, en fait, et est venue après Rosalind Franklin. Ce qui est intéressant dans le cas de Jocelyn Bell, c'est que, donc, elle a été la première à découvrir les pulsars. Et elle a fait ça durant sa thèse, en s'intéressant à un petit signal récurrent auquel personne d'autre ne s'intéressait, et en tout cas pas son directeur de thèse, semble-t-il. La différence avec Rosalind Franklin, c'est qu'au moment de l'attribution du prix Nobel, il y a eu un certain nombre de gens qui se sont tout de suite offusqués, un certain nombre de scientifiques qui se sont offusqués qu'elle ne soit pas prise en compte. Et la réponse, c'était de dire qu'elle n'était qu'étudiante à l'époque, etc., qu'elle était en thèse et donc pas un chercheur confirmé. C'était une des raisons qui a été donnée, mais qui n'a pas, qui n'a pas été reçue par un certain nombre de gens qui se sont beaucoup indignés au moment en 74, quand son directeur de thèse reçoit le prix Nobel.
Au moins, il y a eu des réactions. Le Conservatoire botanique fête cette année son bicentenaire, l'occasion de présenter les scientifiques qui ont participé au succès de l'institution. 16 personnalités sont mises en avant. Parmi elles, on trouve seulement 2 femmes. Vous faites partie du comité de sélection. Qu'est-ce qui explique ce chiffre ?
Alors, 2 femmes, parce que La science est restée très longtemps un monde essentiellement masculin. Les choses changent, Dieu merci. Mais dans le cadre des conservatoires et jardins botaniques, effectivement, là, il n'y a eu que des directeurs, par exemple, de l'institution, aucune femme. Et on a cherché donc quelles étaient les femmes qu'on pouvait mettre en avant. Donc l'idée, c'était aussi de prendre des femmes, que des personnages décédés. Donc on était aussi restreint sur la période actuelle où il y aurait a priori plus de femmes, mais parmi ces personnages, on en a trouvé deux, dont Simone Vautier, qui est un personnage extrêmement intéressant parce que elle allait du XXe siècle. Et c'est une femme qui a commencé à s'intéresser à la botanique à 32 ans, après avoir fait autre chose, travaillé comme secrétaire médicale dans un cabinet médical. Et elle reprend des études à l'Université de Genève. Elle est passionnée de botanique et elle se fait très vite remarquer par Charles Bénit, qui est alors directeur des CJB. Donc à 32 ans, elle va travailler jusqu'à 62 ans. Et en 30 ans de carrière, elle va en fait faire une carrière fulgurante, parce qu'elle va d'abord engagée comme assistante, et puis ensuite elle va passer conservatrice, ensuite conservatrice principale. Il n'y en a pas eu beaucoup, je pense qu'il y en a eu deux, trois actuellement dans l'histoire des conservatoires et jardins botaniques. Et puis elle va être en charge de l'herbier de Candolle, par exemple, qui est un herbier très prestigieux. Elle va également donner des cours à l'université, en pharmacie en particulier. Enfin bref, elle explose un peu tous les critères en faisant cette carrière extrêmement fulgurante. Malheureusement, elle prend sa retraite à 62 ans et elle meurt une année plus tard. Donc elle a pas tellement survécu à cette carrière-là, on dira. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'elle a, et c'est pour ça que ce personnage m'intéressait, c'est que c'est elle aussi qui a beaucoup lancé la médiation. Et moi, je n'en avais jamais entendu parler avant de m'intéresser à elle, parce qu'on disait toujours que c'était le directeur suivant qui avait beaucoup lancé la médiation et la vulgarisation. Mais il s'est beaucoup appuyé sur elle, mais elle a disparu une fois de plus. Enfin voilà, c'est pas le premier nom qu'on citait quand on parlait du début de la vulgarisation scientifique au CGB.
On poursuit la discussion juste après la musique.